Bonjour et rebonjour à tous. Nous allons, j'allais dire poursuivre la série de messages sur l'épître aux Galates, mais en fait je vais revenir au même verset que ceux que j'ai lus la dernière fois. Si vous vous souvenez bien, sur Galates 5, versets 16 à 26, j'avais à peine abordé les versets 16 et 17. Eh bien, je vais continuer aujourd'hui par un message sur Galates 16 et 17. Et je vais juste y rajouter un verset. Donc avant cela, on va prier. Père Céleste, par ta parole, tu nous mets devant des choses impossibles. Il y a des versets dans ta parole qui sont comme une lame tranchante qui est là pour trancher dans notre chair, pour circoncire le cœur. Et nous reculons face à ces versets en nous disant « Mais c'est impossible. » J'en donnerai ce matin des exemples. Et face à ta parole, on la contourne, on la triture, on y ajoute, on y retranche pour contourner cette impossibilité. Et pourtant, la voie est claire. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu nous mets face aux impossibilités pour que nous faisions appel à toi, pour que toi tu opères en nous, et que par là notre foi grandisse toujours plus. Donc aide-nous, je t'en prie, à garder ta parole en ce sens-là. Seigneur, même si elle nous fait mal parfois, même si elle met à nu nos mensonges, même si elle met à nu cette chair religieuse qui ne veut décidément pas mourir, et pourtant qui doit mourir, non pas en parole, mais bien dans les faits. Donc fais-nous grâce. Que la parole qui soit prononcée ce matin puisse être accompagnée de ton bon esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Vous voyez, la dernière fois, j'avais préparé tout un message, comme d'habitude, avec des notes. Et ce matin, j'ai tout regribouillé. Donc, parce que vraiment, je pense que la clé de bien des défaillances dans nos vies chrétiennes et dans nos vies d'église, c'est qu'on n'arrive pas à passer des œuvres de la chair à la marche par l'esprit. Et on préfère la tiédeur de Laodicée plutôt que d'être bouillant dans le Seigneur, ou alors être froid comme un mort en Égypte. Mais voilà, on essaye de trouver un compromis pour que l'œuvre de la croix n'aille pas jusqu'au bout, et on la contourne, comme je l'ai dit. Et il y a bien des artifices qui sont mis en place pour contourner l'œuvre de la croix, et j'en citerai là encore quelques-uns ce matin. Voilà, là il y a quelque chose qui est inévitable. La porte du royaume de Dieu, c'est la croix du Fils. Mais également impossible, parce que plus on s'approche de la croix dans la repentance, et je décrirai ce que ça veut dire, plus il y a notre chair qui hurle en disant « je ne veux pas mourir ». Vous voyez, il y a vraiment un enjeu de vie et de mort qui se joue à la croix. Donc, c'est ce dont je vais reparler aujourd'hui. Et alors, on ne le fait pas souvent, mais au fur et à mesure que je vais parler, s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas forcément clair, et pourtant j'essaye d'être clair dans mes propos, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, il faut qu'on y aille tous ensemble. Donc j'aime bien les messages interactifs. Voilà, c'est pas un one-man show depuis la chair. Hein. Donc, on est participant de la même œuvre de Dieu. Donc, pour ce matin, je relirai simplement trois versets, mais toujours dans le passage qui nous occupe, dans Galates 5. Les versets 16 et 17, et ensuite, j'ai pas pris mon stylo, c'est pas grave, le verset 24. Donc je le lis, alors toujours pareil, à partir d'une traduction personnelle basée sur le texte araméen. Galates 5, 16, 17 et 24. Or je vous dis, marchez par ou dans l'esprit, et vous ne mettrez jamais en œuvre les convoitises de la chair. Car la chair convoite ce qui contrarie et blesse l'esprit, ou attriste l'esprit. Et l'esprit convoite, même verbe, désirer convoiter, c'est le même verbe en araméen et en grec. L'esprit désire convoite ce qui contrarie et blesse la chair. Les deux sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne mettiez pas en œuvre ce que vous voudriez. C'est fort comme parole, cet antagonisme radical entre la chair et l'esprit. Et comme je l'ai dit dans ma prière d'introduction, Laodicée a réussi à concilier l'esprit et la chair. Donc, ce qui est impossible à Dieu, concilier la chair et l'esprit, notre chair le fait. Et ce qui est impossible à nous, séparer radicalement les deux, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, vous voyez combien la chair est tortueuse. Et le verset 24, et ça va être le cœur du message ce matin, ceux qui sont du Messie, c'est-à-dire lui appartiennent, ont crucifié leur chair avec toutes ses passions et ses convoitises. Alors, voyez déjà le premier verset qui est impossible. Ceux qui sont au Messie, du Messie, lui appartiennent, ont crucifié la chair avec toutes ses passions et ses convoitises. Donc, d'emblée, boum, voilà quelque chose qui... Oh. Et donc, nous avons des tas d'artifices pour contourner cette vérité de la parole, et je vais en parler ce matin. La première... Alors, moi, j'aime bien... Alors, plus j'avance en âge, et moins j'apprécie la théologie, moins j'apprécie les raisonnements. Et c'est peut-être la vertu de l'âge, parce que quand on est jeune, on aime bien raisonner, on aime bien comprendre les choses bien carrées, hein, les maths, la physique, voilà, il faut que tout soit, parce qu'on a besoin de certitudes. Mais quand on avance avec l'âge, ce ne sont pas les certitudes qui nous portent, c'est ce qu'on expérimente. Et donc, à un moment, et c'est, je pense, la vertu de l'âge, on est obligé de se poser les bonnes questions, non pas « est-ce que j'ai bien compris ?» Mais est-ce que je vis ce que la parole promet? On entre dans le terrain de l'expérience. Et l'expérience, ce n'est pas quand on est jeune qu'on l'a. Comme je l'ai dit, on cherche en général nos certitudes, notre sécurité, notre stabilité, dans des, voilà, des choses bien carrées que l'on comprend. Alors que ce qui importe, c'est la mise en pratique de la parole et l'expérience de la parole. Donc je commence d'emblée par une provocation. Mais c'est pour nous. Marchez par l'esprit, vous ne mettrez pas en œuvre les œuvres de la chair. Donc inversement, si je vis encore dans la chair, et que je mets en œuvre les œuvres de la chair, c'est que je ne marche toujours pas par l'esprit. Vous voyez ? C'est la, logiquement, les deux propositions sont équivalentes. Donc, des fois, on dit, mais ça veut dire quoi marcher par l'esprit? Est-ce que tu es encore esclave des œuvres de la chair? Ça te donne la réponse. Oui ou non? C'est... Et quand on est face à des versets comme ça, c'est là qu'on commence la vie de prière. Mais sérieusement, cette fois. Plus des belles phrases. Je connais un homme de Dieu qui est mort aujourd'hui, qui disait, mais on ne ment jamais plus devant Dieu que quand on chante les cantiques. Parce qu'on proclame et on lit des choses, mais qu'on ne vit pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais des fois, je chante des cantiques, et en fait, je ne fais même plus attention aux paroles, tellement je connais les cantiques. Et je passe, et à la fin, je dis, mais mince, qu'est-ce que je viens de dire, là? Vous voyez?
Il y a quelque chose qui est incompréhensible pour nous.
Oui.
Les désirs de la chair sont contre les convoitises de l'esprit. Mais notre désir, c'est bien d'être en esprit avec Dieu.
Oui.
Donc, comment on fait?
Là, tu poses la question de Romains 7. Par mon entendement, je suis esclave de la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a un écartèlement qui doit provoquer le cri, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et en fait, la repentance, elle a pour but de nous amener à ce cri-là, à cet écartèlement, à cette contradiction en nous-mêmes. Je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à lire la parole, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre. Et le but de la repentance, c'est de nous amener à ce cri qui me délivrera. Mais je vais revenir exactement sur ce point-là après. Mais c'est quand on est mis face à ce genre de verset, l'incompatibilité entre les œuvres de la chair et la marche par l'esprit, comme je l'ai dit, c'est là que la prière commence. On se dit, mais Seigneur, c'est impossible. Je vois même pas comment ça serait possible. C'est là qu'on prie. Parce qu'on ne va pas prier Dieu pour des choses qui sont évidentes. On prie Dieu pour des choses qui sont impossibles. C'est comme ça que Dieu se révèle. Il nous met face à des impossibilités. Quand il dit à Abraham, tu vas avoir une postérité. Abraham dit, attends, mais je suis trop vieux. Ma Sarah, ma chérie, elle est bien trop vieille. C'est pas possible. Mais il a eu foi en Dieu. Il s'est dit, et Abraham a eu Isaac. C'est le fruit d'une impossibilité. Sarah était trop âgée. Elle a eu Isaac, elle avait déjà 90 ans. Et Abraham avait 100 ans. C'était impossible. Mais il a cru en Dieu. Si Dieu me l'a dit, alors que c'est impossible humainement, je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Et ça, c'est pour ça qu'Abraham avait la foi. La foi, c'est ça. C'est de croire que ce que Dieu me dit, alors même, il faut bien qu'il nous l'ait dit, hein, mais il nous le dit par la parole, et que même si ça me semble impossible, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas trouver un chemin. Et le chemin, c'est qui? Le chemin, c'est quoi? C'est Jésus. On oublie que Jésus est le chemin, qui est là au début, au milieu, à la fin. Nous n'avons, en tant que fils de poussière, nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est l'évangile pour les petits-enfants. On n'a qu'une seule chose à faire. Nous attacher à lui, le chercher, le prier. Jésus, Jésus, toujours Jésus. Parce qu'il n'y a que par le Fils que nous pouvons atteindre le Père. Donc, il faut passer par le Fils. Et le Seigneur nous a simplifié grandement les choses tout en nous mettant face à des choses impossibles. S'il a dit, mais le chemin pour l'accomplir, c'est mon Fils. Et ce chemin-là passe obligatoirement par la croix. Mais la croix sans le Fils, se faire harakiri et des flagellations, des introspections, ça, c'est pas la voie du Fils. La voie du Fils, c'est la bonté du Fils, la bonté de Dieu, comme dit Paul dans Romains 2. C'est la révélation de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, qui va me pousser à la repentance. Donc le chemin, c'est le Fils. Il n'y en a pas d'autre. Et prêcher la repentance sans parler de l'amour du Fils, de la grâce du Fils, vous terminez dans le légalisme, tout droit. Parce qu'on va commencer à essayer de s'améliorer soi-même. Mais tout ce qu'on est capable de faire, c'est de transformer notre chair paillarde en une chair religieuse. Et regardez ce que la chair religieuse a fait du Fils de Dieu dans les évangiles. Elle l'a cloué sur une croix. C'est tout ce dont est capable la chair religieuse. Donc plus on active la chair religieuse, moins on parle du Fils. Ça, c'est une caractéristique. Hein. Le message de la croix sans l'annonce du Fils. Mais inversement, parler de l'amour du Fils, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Mais ne pas mettre au centre du message la croix, ça ne permet pas de passer la porte du royaume de Dieu. Ça, c'est l'humanisme. C'est une version humaniste des choses. On met en avant l'amour de Dieu, mais on refuse en fait la croix. Donc voilà, la parole nous met face à des dilemmes impossibles et elle le fait exprès. Et c'est ça, garder la parole. Garder la parole, c'est garder une parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une lame à deux tranchants. C'est intéressant parce que la lame dont il est question là, c'est le couteau de la circoncision. La parole de Dieu est l'instrument de notre circoncision, la circoncision du cœur. Souvent on se dit, mais... Alors je m'éloigne un peu de mes notes, mais c'est pas grave. Souvent on dit, mais c'est quoi la chair ? On a du mal. Alors il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, mais là-dedans il y a la chair, mais c'est quoi la chair ? Ben, la chair, la viande, ça d'accord, la chair et le sang, ça, c'est neutre, la chair et le sang, c'est parler de notre nature humaine. C'est ce que l'on célèbre quand on prend la scène, le pain et le vin, on célèbre l'offrande de la chair et du sang qu'a fait le Fils. Mais après on dit, mais la chair, ben, la parole nous donne la réponse. Dans Colossiens 2, il est question de la circoncision du Messie qui consiste en le dépouillement du vieil homme. Mais c'est quoi la circoncision ? Pourquoi est-ce que la circoncision est devenue le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham, et Abraham et sa postérité ? C'est l'ablation, donc du prépuce, qui est l'image, en fait, de la chair. Donc vous voyez, la chair, c'est pas notre cœur. Des fois, en tant que chrétien, on peut dire, oh, mon cœur est mauvais. Oh, je suis encore tombé. Mon cœur est mauvais. Mais si je suis chrétien, la parole dit que l'esprit habite dans mon cœur. Donc ce n'est pas le cœur qui est mauvais. C'est le prépuce du cœur. Et ça, c'est l'expression employée dans l'Ancien Testament. C'est le prépuce du cœur. Donc il y a quelque chose qui est attaché à notre cœur, qui n'est pas notre cœur, mais qui est juste à côté, que Dieu veut couper. Et cette chose-là, ça s'appelle la chair, ça s'appelle le vieil homme, ça s'appelle notre ancienne nature, ça s'appelle la nature adamique. C'est quelque chose-là, pour moi, personnellement, ça m'aide de me la représenter comme le prépuce du cœur. Cette chose-là que le Seigneur veut couper. Vous voyez ? Donc il y a bien le corps, l'âme et l'esprit, mais la chair, c'est le prépuce du cœur. C'est cette partie-là qu'il faut couper. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Mais comment fait-il ? Comme je l'ai dit, la chair religieuse, et souvent malheureusement la chair théologique, trouve tous les moyens possibles pour contourner le message de la croix. Donc je vais dire des choses un peu nouvelles pour certains, voire controversées. Mais j'assume, sauf si on me prouve le contraire, non pas par la théologie, mais par la parole. Et je vais partir d'un exemple concret, pas plus tard que le week-end dernier. J'étais dans un groupe de maisons, donc partage. Et à un moment donné, dans le partage, basé sur la première épître de Pierre, voilà qu'un frère, sur ma gauche, à peu près mon âge, longue expérience chrétienne, il a l'honnêteté de dire devant tous, mais je ne comprends pas, ma vie n'avance pas, je retombe toujours dans les mêmes travers. J'ai l'impression que... Je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Est-ce que ça serait le baptême de l'Esprit ? Là, je cite vraiment ce qu'il me disait. Nous disait. Mais est-ce que ça... Voilà, il y a quelque chose qui me manque. J'ai l'impression... Alors maintenant, c'est moi qui traduis avec mes mots. J'ai l'impression de tourner en rond. Je retombe toujours dans les mêmes péchés. Il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça a été pour moi l'occasion, dans ce groupe, à nouveau, de parler de la repentance. Qu'est-ce que la repentance ? Pourquoi ? Parce que dans bien des milieux, la conception de la repentance est la suivante. Tu as cru à Dieu, tu as levé la main, tu as donné ton cœur à Jésus, tu t'es repenti, tu reconnais que tu es pécheur, oui, 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 très bien, ça y est, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu entres dans le royaume de Dieu, et boum, 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 boum. Il y a tout un tas de vérités comme ça, bibliques, que l'on assène à la personne, alors qu'elle n'en a pas le début du commencement de l'expérience, et on lui dit, ça y est, tout est accompli, ça y est, maintenant, t'es chrétien. Ça marche une semaine, un mois, un an, deux ans, cinq ans, mais à un moment donné, il y a le dur mur de la réalité qui dit, mais comment ça se fait, les promesses de la parole de Dieu je ne les vis pas. Comme je l'ai dit, il y a des versets. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ah oui, mais attention, attention. Ça a été fait il y a 2000 ans à la croix. Positionnellement, tu es crucifié à la croix. Positionnellement, tu es assis dans les lieux célestes. Vous voyez ce qu'on est en train de développer comme discours ? Ah oui, mais ça c'est vrai positionnellement, mais c'est normal que tu ne le vives pas. Mais positionnellement, c'est vrai, et c'est comme ça que Dieu te voit. Ah bon ? Alors moi, j'ai peut-être un problème de cerveau, mais j'ai un cerveau qui est plutôt concret dans sa pensée. J'ai du mal avec les idéologies. Non, à un moment donné, ces choses-là doivent être effectives dans nos vies. Et donc, on met tout sur la conversion. Alors, la conversion, c'est le moment où on fait demi-tour. Hein. Bon, bibliquement, la conversion, c'est l'appel. Et quand on dit au moment de l'appel, ça y est, t'as tout reçu, t'es né de nouveau, t'es assis dans les lieux célestes, ta chair est crucifiée, blablabla, on est en train de dire, mais on ne le dit pas. Mais en fait, c'est comme ça que la chair se sécurise. Tout appelé est élu. On ne le dit pas. Mais c'est ça qu'on sous-entend. Si tout me tombe dessus au moment de l'appel, y compris la nouvelle naissance, qui est le passage de la chair à l'esprit, alors, je dis implicitement, en fait, à l'appel, j'ai été élu. Évidemment, la parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, il y a un problème là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tous les Israélites ont été appelés à sortir du désert. Tous les Israélites ont été baptisés en Jésus, en Moïse. Ça, c'est intéressant, le lapsus, parce que j'ai parlé du baptême en Jésus après. Ils ont été baptisés en Moïse. Mais comme il est dit, la plupart ont désobéi. 1 Corinthiens 10, en langage d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui j'entends de mon message, la plupart ne se sont pas repentis, n'ont pas connu la repentance, et ils sont morts dans le désert. Ce qui fait que tous ceux de 20 ans et au-dessus qui étaient sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert, avec deux exceptions, Josué et Caleb. Ce sont les deux seuls. Ça veut dire que 40 ans plus tard, vous n'aviez que des hommes de 60 ans et en dessous. Puisqu'ils avaient 20 ans et en dessous, eux vont passer le désert. Tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus sont morts dans le désert. 20 ans en dessous, 40 ans après, c'est 60 ans et au-dessous. Donc vous aviez un peuple solide physiquement qui avait passé les épreuves du désert et qui avait très peu, voire plus du tout, de souvenirs de l'Égypte, au contraire des gens adultes, 20 ans et au-dessus, qui n'arrivaient pas de se plaindre. « Ah, nous avions des oignons en Égypte. Ah, mais c'était mieux en Égypte. Quoi, Moïse, tu nous as menés dans le désert pour qu'on meure ?» Constamment dans le murmure, dans la rébellion, ils ne voulaient pas se repentir. Et cet Israël charnel qui sort de l'Égypte, c'est l'image de notre vieil homme. C'est l'image de notre vieil homme. Et cette jeune Israël qui va entrer en Canaan, c'est l'image de l'homme nouveau. L'homme nouveau sous la conduite de Josué, c'est-à-dire Jésus. Vous voyez ? Donc je pense que c'est de là que Paul tient cette idée, le dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau. C'est ce qui est arrivé collectivement à l'Israël qui est sorti d'Égypte. Une partie est morte dans le désert, l'autre partie va entrer dans Canaan. Et ça, c'est l'œuvre de la circoncision du cœur, qui consiste, Colossiens 2, en le dépouillement du vieil homme.
Mais ce dépouillement, non, moi je n'y arrive pas.
Alors je vais développer ça. C'est la clé.
C'est justement, il faut arriver à ça. Il y a toujours la crainte de mal faire, toujours.
On n'a pas de crainte de mal faire si nos yeux sont tournés vers Jésus. Hébreux 12, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, à la maturité, à sa finalité. Donc Jésus, il est là au début, au milieu, c'est pour ça que c'est un chemin. Il est le chemin. Il est là au début, à l'appel. Il est là dans le désert. Et dans le désert, il fait quoi ? Deutéronome, il nous fait éprouver la faim, il nous fait éprouver la soif. En clair, dans un langage plus développé, il nous fait passer par diverses épreuves afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or éprouvé par le feu, puisse tourner à sa louange. Ça, c'est l'épreuve du désert. Donc rien que là, déjà, on recule. On recule.
Il apporte la manne aussi.
Alors oui, alors j'y arrive. Il nous fait éprouver la faim et la soif afin que nous apprenions que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour concrétiser, puisque l'Ancien Testament est un langage concret pédagogique à partir des ombres, effectivement, il donne la manne au peuple, qui est l'image de ce pain, cette nourriture surnaturelle, pour laquelle il ne travaillait pas, et qui était là tous les matins, présent, prêt à manger. Donc c'est un miracle, donc ça relève de l'impossible. Parce que donner du pain à manger à des millions de gens, ou des centaines de milliers, alors on peut débattre sur le nombre, mais tous les matins dans un désert, il faut le faire, c'est un miracle. Donc le Dieu du désert, c'est ça. Le deuxième, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète, il faut vraiment répéter les choses. Le désert est le lieu de l'attachement. Et le mot attaché, quand l'Éternel dit dans le Deutéronome, cherchez le mot attaché dans Deutéronome, je veux m'attacher à vous, vous vous attacherez à moi. C'est le même mot qui est employé quand il est dit qu'Adam s'attachera à Ève. C'est le même mot. Donc vous voyez que c'est un mot extrêmement fort. Il est là question d'union. Et l'union, c'est la clé. Comment être uni à Jésus si je ne cherche pas Jésus? C'est pour ça que j'ai dit il est le chemin et la seule chose que nous ayons à faire, c'est de chercher Jésus. Ça, c'est le cœur de la pensée de Calvin, l'union en Jésus. En lui, j'ai tout parce qu'il a tout et que je n'ai rien. Mais est-ce que je sais que je n'ai rien? Pour réaliser qu'il a tout. Donc, on doit bien passer par un dépouillement des illusions de la chair, et en particulier de la chair religieuse. Donc, le deuxième point dans le désert, après les épreuves, la faim, la soif, pour découvrir la vertu de la parole de Dieu comme étant nourrissante pour notre esprit, la deuxième qualité, la deuxième caractéristique du désert, c'est l'attachement à Dieu par Jésus, l'union en Jésus. Et la troisième que l'on peut rajouter, et on va combiner les deux et la trois, c'est, ça m'a frappé, mais il n'y a pas plus tard que quelques jours, dans Jean 3, 14, et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais ce qui m'a frappé, c'est le dans le désert. La croix, elle est mise dans le désert. C'est la porte de sortie du désert. Mais elle est dans le désert. C'est dans la faim et la soif, dans les épreuves, dans le dépouillement, dans, etc., qu'il nous est demandé de regarder à celui qui a été mis sur la croix. Et le lien entre l'attachement et le serpent d'airain élevé sur le bâton, donc Jésus élevé sur la croix, c'est ce que dit exactement Romains 6. Si nous sommes devenus une même plante avec lui en sa mort, alors nous le serons également dans sa résurrection, dans sa vie. Et là, d'emblée, théologie, théologie. Oui, mais ça, c'est vrai positionnellement. Et là, on exalte, à raison, mais c'est pas suffisant, l'œuvre objective de la croix, l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ce qui est vrai. Personne ne pouvait faire ce que Jésus a fait à la croix. Et je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois. Vous vous souvenez de l'image de ce mur sur lequel est la croix? Le divin vient à nous par la croix sur ce mur, et nous, nous venons avec notre chair de l'autre côté, l'humanité déchue, nous devons aller à la croix. Le contact entre les deux se fait à la croix. Et il n'y a pas d'autre porte pour passer du charnel au spirituel, de l'humain au divin. C'est la croix. Quand je dis passer au divin, ce n'est pas de devenir Dieu, mais c'est comme le dit Pierre, devenir participant de la nature divine qui est l'incorruptibilité, qui est justement le rejet de la convoitise. Donc, vous voyez, c'est... Et donc, comme je l'ai dit, on a tendance à tout mettre sur l'expérience de l'appel, qu'on appelle la conversion, Mais comme on dit en anglais, reality is a bitch. La réalité, c'est une garce. Elle finit toujours par nous revenir. Et je ne vais pas être grossier, donc je vais dire à la figure. Et c'est exactement ça. La réalité finit toujours par revenir. Et la réalité, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on réalise en fait qu'on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à passer au travers. Il y a quelque chose qui se dit, mais... Alors là, on dit, oui, mais t'inquiète pas. Ça, c'est la sanctification, ça va se faire petit à petit. Petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Petit à petit. Et là, on est en train de confondre deux choses. La repentance et la sanctification. Dieu ordonne à tout homme de se repentir. Et la repentance, c'est ce qui nous amène à l'union à Jésus en sa mort. Donc on prend du temps devant le Seigneur pour dire « Je viens à toi tel que je suis, montre-moi, j'accepte le verdict, j'accepte d'être mis face à des impossibilités, j'accepte d'être mis face à des choses que je ne veux pas voir en moi, je ne veux pas les voir, j'accepte d'être confronté à une souffrance, parce que la souffrance dans la lutte contre le péché ou la lutte contre les convoitises, c'est une souffrance. » Faut bien le... Quand Pierre dit dans 1 Pierre 4, « Le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert, dans la chair, en a fini avec le péché. » On a fini avec le péché. Afin de vivre, parole impossible. Mais si on la contourne par des arguments théologiques, on ne va jamais être dans le dur de la confrontation avec l'impossibilité de la parole qui provoque, comme je l'ai dit, la prière. Donc, je recommence. Le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre dans les jours qui lui restent à vivre dans la chair, donc c'est pas afin de vivre dans l'éternité, c'est afin de vivre dans le reste des jours qu'il me reste à vivre dans la chair, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc il y a bien un point de passage obligé. Et ce point de passage obligé, c'est Jésus qui l'a rendu possible. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pendant son ministère ? Sinon, souffrir pour résister au péché, à l'autonomie, toujours rester dans la volonté de Dieu, afin que la chair ne naisse pas en lui. C'est ça son combat. C'est que le péché n'advienne jamais en lui. Or, c'est quoi le péché ? Ah ben, non plus ta volonté, Père, mais là, il faut vraiment que je me sauve, moi-même. Le combat de Gethsémané, mais le combat de la croix aussi. Ah, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alors là, on va croire. Non, je dois rester sur la croix. Je ne dois pas céder à la tentation. Je ne dois pas céder à mon instinct naturel de survie maintenant que je suis devenu homme, qui serait de me sauver moi-même. Non. Et il meurt en disant, je remets, Père, mon esprit entre tes mains. Il meurt dans l'obéissance. Il meurt dans la soumission. Il meurt sans que jamais la chair n'ait pu naître en lui, le péché n'ait pu apparaître dans sa vie. Il offre un agneau saint et sans tache à la croix. C'était ça le combat. Parce que là, il était dans une nature humaine. Et comme le dit la parole, il a subi les mêmes épreuves, les mêmes tentations que nous, mais sans jamais céder. Et le combat, il est là. La victoire de la croix, elle est là. Donc vous voyez que nous attacher à Jésus, c'est devenir par leur repentance participant de cet esprit de Jésus qui a tenu bon face à la chair, qui a tenu bon face au monde, qui a tenu bon face au péché. Et là je me rends compte que j'ai à peine commencé tout ce que je voulais dire, donc dans un mois on reprendra la suite. Donc vous voyez, mais j'ai quand même terminé par cette idée. Donc d'un côté, on attribue tout au moment de l'appel. Et comme je l'ai dit, sauf exception, je vais pas trop développer parce que sinon je vais me perdre. Sauf exception, il faudrait développer ce que ça veut dire. On met tout, voilà. Ça, c'est les théologies, voilà. Certaines théologies. Alors, je ne sais pas s'il faut les nommer, mais je pense qu'on se reconnaîtra de quoi je parle. Voilà. Tout est mis à l'appel. Et voilà, maintenant, c'est une question de foi. Voilà, il faut que tu proclames ce que dit la parole de Dieu. Mais comme je l'ai dit, c'est la vertu de l'âge et des poils blancs. À un moment donné, on s'en rend compte, mais non, je n'arrive pas à vivre ce qu'on me dit. Et en réaction à ça, antithèse, c'est qu'il doit y avoir autre chose, une deuxième expérience. Et donc, c'est là qu'on va commencer à parler de baptême de l'esprit, qu'on va parler de ces choses-là. Comme vraiment, ah oui, non, mais voilà, c'est la chose qui me manquait. Quand je serai baptisé de l'esprit, je mets des guillemets. Alors, voilà, tout mon dilemme va se résoudre. Voilà. Et pourtant, il est facile de montrer que, par la parole, le baptême de l'esprit, c'est le baptême en le corps de Jésus. Et en fait, c'est un synonyme pour la nouvelle naissance. Alors, dans ce cas, on est en train de dire que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu au moment de l'appel. Donc, vous voyez, thèse, antithèse. Soit on met tout dans la première et implicitement, on confond l'appel et l'élection, alors que la parole dit que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ça, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Maintenant, j'ai été appelé, j'ai un témoignage de conversion extraordinaire. Il s'est passé des choses surnaturelles. Oui, mais c'est l'appel. Relisons Hébreux 6. Hein. Ils ont goûté que la parole de Dieu est bonne, ils ont été éclairés, ils ont eu une vue sur les promesses à venir. Et pourtant, ils sont retournés. Donc, vous voyez, c'est pas... L'appel, ce n'est que le commencement hein, de la vie chrétienne. Mais il faut passer par le désert. Donc, les premiers, c'est comme s'il n'y avait pas de désert. On va directement de l'Égypte à Canaan. Et on oublie tout le travail de Dieu dans le désert. Et les autres disent, ah oui, mais le baptême de l'esprit, c'est comme ça qu'on entre dans Canaan, qu'on vit les promesses de la parole de Dieu, que nous devenons victorieux, que nous allons à la conquête. Voilà, avec un langage assez guerrier, d'ailleurs. Et... Oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que la parole dit ? Non, je pense qu'il n'y a qu'une seule œuvre. Sauf qu'on la met en un endroit précis, le moment de l'appel, et on oublie que Jésus est le chemin. C'est un processus de passage de mort à la vie, de chair à l'esprit. C'est un processus. C'est exactement comme une naissance. La naissance, elle n'a pas lieu comme ça. 9 mois avant, il y a eu une fécondation. Et la parole est appelée la semence de Dieu. Cette semence-là, qui est la parole de Dieu, Jean nous dit, en rapportant les propos de Jésus, que nous devons garder cette parole. C'est la condition préalable. Ça, c'est un verset, bon, je l'ai cité combien de fois ici, mais vraiment qui me poursuit. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Alors, aimer Jésus, alors, des fois, je suis un peu méfiant de certains cantiques, parce que on ramène l'amour de Jésus à un espèce de sentiment. Oh, il m'aime, je l'aime. Non, aimer Jésus, c'est garder la parole. Garder la parole, ce n'est pas ajouter mes propres conceptions théologiques, parce que plus j'en ajoute, plus j'enlève l'esprit. Plus le couteau s'émousse, et moins il devient efficace pour la circoncision du cœur. Vous voyez ? Donc garder la parole, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est garder les impossibilités de la parole, garder ces versets, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est simple, je le vis ou je ne le vis pas. Si je le vis, on glorifie Dieu. Si je ne le vis pas, Seigneur, je ne te lâche pas. Montre-moi, tu es le chemin, donc je m'accroche à toi, mais aide-moi à avancer. Comme je l'ai dit, on a tendance à confondre la repentance avec la sanctification, et on attribue à la sanctification ce qui relève en fait de la repentance. Parce qu'on a tellement réduit la repentance à une portion congrue qu'on pense ensuite que tout se fera petit à petit, t'inquiète pas. Donc grosso modo, au moment où tu mourras, tout sera fait. Ah oui, donc ça veut dire que je ne vis pas les promesses avant. Dès qu'on commence à réfléchir un peu, on se retrouve face à des... On met à nu des raisonnements, en fait, qui ne nous permettent pas d'avancer. Au contraire, qui nous gardent coincés là où on est. Peut-être que j'ai juste terminé ma pensée, et après je te donne la parole. Donc, la première étape, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. D'accord ? Celui qui m'aime, deuxième étape, sera aimé de mon Père. Sera aimé. Ah, attends, je pensais que Dieu m'aimait dès le départ. Il a même tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, non? Pourquoi il est dit « sera aimé » ? Et là, je renvoie au message de la dernière fois, je ne vais pas répéter. Je vous ai dit qu'à la croix, c'est là que se résout le mystère, qui est la première des interrogations qui vient à notre pensée quand on nous parle de Dieu. Vous sondez quelqu'un dans la rue. Si Dieu est amour, pourquoi autant de souffrance ? C'est à la croix que se combinent l'amour et la souffrance. L'amour du Père, la souffrance du Fils. Et donc c'est à la croix que l'on doit résoudre nos propres dilemmes quand on essaye d'articuler dans nos vies, avec nos souffrances, avec notre passé, avec notre histoire, combiner nos souffrances et l'amour de Dieu. C'est à la croix. En dehors de la croix, c'est pas possible de les articuler les deux. C'est trop contradictoire dans notre tête. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je suis passé par ceci ? Pourquoi j'ai subi cela ? Pourquoi ? Et on a plein de pourquoi. Donc ça, c'est le deuxième point. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et donc, celui qui m'aime, ça veut dire celui qui m'aime, parce que garder la parole m'a amené à la croix. Parce que les impossibilités de la parole m'ont amené à la croix. Et c'est là qu'il y a l'amour du Père. L'amour du Père n'est pas ailleurs que dans la croix. Quand il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 3,16. Comme je l'ai dit, on oublie deux versets avant. Car de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est là que se révèle l'amour du Père. Et le troisième point dans ce même verset, je l'aimerai et je me montrerai à lui. Tu étais censé t'être montré à la conversion, non? C'est là que tu t'es montré. Non, je l'aimerai, futur, et je me montrerai à lui. On voit que c'est un chemin. On voit que c'est un processus. Vous voyez, c'est un processus. Et donc, évidemment, quand on est mis face à un processus, quand on nous a bassiné la tête de certitude qui était censée avoir lieu au moment de la conversion, on est instabilisé. On devient inquiet. Mais attends, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Je suis converti. Pas converti. Je me suis repenti, je ne me suis pas repenti. Mais où est-ce que j'en suis dans tout ça? Et c'est là qu'il faut revenir au seul lieu de notre certitude, c'est Jésus. Si vraiment nous avons rencontré Jésus au moment de l'appel, il va nous faire passer par tout ce processus que lui-même a connu pour passer de la mort à la vie. Donc, vous voyez, c'est ce genre de versets, quand on les médite et médite, on s'en rend compte, mais ça crie processus partout. Et en fait, on s'en rend compte que beaucoup, beaucoup de passages dans la parole nous relatent en fait un processus. Vous voyez ? Et donc là, on n'est plus dans le déclaratif. Mais on est dans « Waouh, Seigneur, je veux garder ta parole. C'est comme ça que je vais démontrer que je t'aime. Je vais garder. Et tant pis si la parole me fait mal. Tant pis si la parole me coupe. » Mais voilà. Et là, comme dit Tozer, c'est face à cette réalité, puis je vais arrêter là, c'est face à cette réalité de cette parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'un couteau à deux tranchants, le couteau qui s'approche pour circoncire le cœur. Comme le dit Tozer, c'est là que beaucoup de chrétiens reculent. Et on ne veut pas aller au bout. On ne veut pas aller au bout de cette désillusion quant à nous-mêmes. Quand tu as cité ce verset Abdel tout à l'heure, je l'avais mis dans ma liste aussi, mais on continuera la prochaine fois. Quand Abdel dit, Paul dit, en moi, c'est-à-dire en ma chair, ne réside rien de bon. Est-ce que nous pouvons vraiment le confesser devant Dieu ? En moi, c'est-à-dire en ma chair, vous voyez que Paul fait bien la différence, hein ? Ne réside rien de bon. Une autre manière de parler de l'œuvre de la repentance, c'est de pouvoir confesser devant Dieu, dans ma chair, il n'y a rien de bon. C'est une des manières dont on peut traduire l'œuvre de la repentance. En ma chair ne réside rien de bon. Donc voyez que cette repentance, c'est ce qui nous amène à la croix, c'est ce qui nous amène à l'union à Jésus. Et là, j'anticipe peut-être sur ta question, Jean-Louis, c'est là qu'on découvre la justice de Dieu. Parce que là encore, On a tendance, par la théologie, à séparer la justice, la justification, et la sanctification. Et on exalte la justification comme étant le cœur de l'évangile. Il nous a justifiés, nous sommes déclarés justes devant le tribunal qui nous acquitte. Ça a eu lieu en dehors de nous, c'est un fait accompli il y a 2000 ans. Et que dit la parole ? Jésus a été fait pour moi justice et sainteté. 1 Corinthiens 1:30. Il a été fait pour moi justification et sanctification. Et Calvin dit, on reçoit les deux en même temps, parce que c'est Jésus qu'on reçoit, et rien d'autre. Je ne reçois pas la justice. Je ne reçois pas la sainteté. Je ne reçois pas la sagesse. Je reçois Jésus, qui a été fait pour moi justice, sainteté, sagesse, amour, patience, tous les dons et les fruits de l'esprit. Jésus a été fait tout cela pour moi. Voyez ? Jésus a été fait pour moi justice. Mais Calvin dit, vous recevez les deux en même temps, justice et sainteté, ou aucun des deux. Parce qu'on ne peut pas couper Jésus en deux. Voyez ? Et là, d'un seul coup, et je termine avec ce verset, d'un seul coup, il y a le propos de Paul qui prend tout son sens. On a parlé tout à l'heure de ce cri à l'issue de Romains 7. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Je suis pris dans... Je suis écartelé. Parce que d'un côté, la loi de mon entendement me dit voilà, que la loi est sainte, juste et bonne. Je veux suivre Dieu, je veux aimer Jésus. Donc, par mon entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui fait la guerre à la première. C'est la loi du péché dans mes membres. Qui me délivrera ? Comme je l'ai dit, la repentance nous amène à ce cri. Et ensuite, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors là aussi, les proclamations, nous sommes en Jésus ceci, en Jésus cela. Alors voyons ce que Paul veut dire quand il dit en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que ma chair la rendait sans force. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la chair du péché, afin d'y condamner le péché, afin que, et c'est là le point final de mon message d'aujourd'hui, afin que la justice de la loi soit accomplie en ceux qui marchent par l'esprit. Et là, on comprend d'un coup que la marche par l'esprit et la justification par la foi viennent ensemble. Parce que c'est Jésus, on ne peut pas le couper en deux. Mais ça montre bien que la justice s'accomplit en moi par la marche par l'esprit. Il y a eu bien quelque chose qui a été fait avant pour m'amener à la croix. Ça s'appelle la repentance. Et là, vous avez la troisième voie, entre les deux voies dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout est placé au moment de l'appel, ou alors on va chercher une deuxième expérience. Ben c'est, je pense, ni l'un ni l'autre. Et en fait, et là je vais même encore m'attirer les foudres, en proclamant l'un ou en proclamant l'autre, en fait, mais là encore, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais en fait, on contourne l'œuvre de la croix. Et j'ose dire même qu'on s'oppose à la croix. Ce sont des stratégies pour éviter l'œuvre de la croix. Alors je réalise la portée de ce que je dis. Hein. Mais voilà, ça fait des mois et des mois que ça me travaille tout ça. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut partager la parole. Voilà, même si elle heurte nos convictions théologiques et si elle heurte notre expérience. Mais c'est pour le bien, parce que c'est en étant confronté à la parole que l'impossible va devenir possible dans nos vies. Mais pour ça, la porte d'entrée qui nous amène à la croix, c'est la repentance. Donc c'est cette mise à nu devant Dieu que l'on ne peut expérimenter que quand on se place devant Dieu en Jésus. Qu'on voit sa bonté, on dit « mais voilà, je viens tel que je suis ». Montre-moi ce que je suis, parce que moi-même, je ne le vois pas. J'ai encore plein d'illusions. Donc, montre-moi. Hein, qu'on puisse voir ce vieil homme. Comment peut-on dépouiller le vieil homme si on ne le voit pas? Comment se débarrasser, mettre à distance, avoir autorité par l'esprit sur quelque chose que l'on ne voit pas? Alors, on voit un petit bout de doigt ici. On voit un petit bout d'oreille là. Oui, je veux bien confesser que je convoite. Je veux bien confesser que je suis jaloux. Je veux bien, voilà, donc un petit bout d'oreille par-ci, un petit bout de pied par-là. Mais voyez, on ne voit pas le vieil homme en nous. En réalisant, waouh, c'est corrompu. Il y a rien à faire, il y a rien à sauver. Il y a rien à faire. Donc Seigneur, la repentance nous amène à ça. Voilà. Je vois, ça fait 50 minutes, donc on va clore pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, j'ai à peine abordé donc le mois suivant, donc je continuerai toujours sur ça. Voilà, jusqu'à ce que l'on comprenne bien ces choses-là et ce que nous dit la parole. Donc on va prier. Père Céleste, comme je l'ai dit au départ, par ta parole, tu nous mets face à l'impossible. Et par le don de ton Fils, tu ouvres le chemin qui rend cela possible. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Quand tu as dit à tes disciples, pour quelque chose de très matériel, que les riches auront du mal à passer dans le royaume de Dieu, les disciples ont compris, mais alors voilà, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus répond, hein, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà, et en fait, peut-être que le dilemme, il est là. Et peut-être que notre incrédulité, elle est dans toutes ces stratégies de contournement face à l'impossible. Alors que la foi dit, mais voilà, tu l'as promis, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas le temps que tu vas mettre. Seigneur, mais je m'accroche à toi, je te cherche, je te désire. Je veux te connaître au travers de ta parole. Je veux être confronté à ce couteau qui peut me faire mal. Je veux accepter les épreuves de la foi que tu vas envoyer pour que je me confie toujours plus en toi. Ces épreuves qui me font mal, qui me dépouillent, ces épreuves qui aident à ouvrir les yeux. Donc, Seigneur, fais grâce. Seigneur, que nous ne lâchions pas, que nous ne soyons pas comme les Israélites qui installent leur tente dans le désert et sont contents de tourner en rond. Seigneur, mais vraiment que l'on soit insatisfait et que par là tu nous ouvres un chemin qui passe par la croix et nous fait entrer dans le pays promis, le pays de tes promesses. Amen.
Amen.
Je remercie le Seigneur vraiment du fond du cœur d'entendre de tels messages. Ça remet en question, mais au moins nous sommes en communion. Moi je dis toujours que si on est juste honnête avec nous-mêmes, on peut ne pas l'être avec les autres, je peux le comprendre, mais si on est honnête avec nous-mêmes, notre vie est un miroir. Si je proclame et ma vie c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il suffit d'aller vers le Seigneur à travers la repentance. Pour nous emmener vers la vie de l'Esprit, et pour nous rassurer, quelque part, quand on lit le Nouveau Testament, il y en a, ça a pris 3 jours. Paul 3 jours passés de la chair à l'Esprit. Il y en a que ça a pris 10 semaines. Il y en a que ça a pris 3 ans. Et quand j'entends, j'étais dans ma jeunesse, quand j'entendais la conversion, allez, proclamer la bonne nouvelle, témoigner, je le rappelle, il a fallu 3 ans et demi pour que Jésus dise à ses disciples, au bout de 3 ans et demi, maintenant, allez. Ah, il ne le dit pas avant. Et quand il l'aura demandé avant, c'était la catastrophe. Que le Seigneur nous aide. Encore merci beaucoup pour ce cheminement qui nous mène vers la vie de l'Esprit. Nous allons reprendre ensemble la prière modèle que le Seigneur nous a laissée. On peut revenir sur le sujet cet après-midi, hein, sinon voilà, il n'y a pas de... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Avant de reprendre le chant, et ça après on va se séparer, pour ceux qui vont rester avec nous, une pensée qui me vient, quand on est dans la vie de l'esprit, on ne s'en rend pas compte soi-même. C'est les autres qui s'en rendent compte. Voilà un exemple. C'est les autres qui le voient, mais celui qui vit dans l'esprit ne le voit pas. C'est un des critères. Si on commence à se vanter, se mesurer quand on vit dans l'esprit, c'est qu'on est à côté aussi. Donc ça, il y a des témoignages.
C'est un point absolument crucial. La marche par l'esprit, c'est le regard constant sur Jésus. Il n'y a qu'en lui que l'on voit la justice, la beauté, la gloire, la sainteté et tout le reste. Donc la marche par l'esprit, c'est la confession que la chair est corrompue et qu'il n'y a rien à sauver. Sinon, on est dans le perfectionnisme, on est dans le légalisme, et voilà, c'est un des deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber.
Merci, Jean-Marie.
Tozer dit, un saint ne sait pas qui il est.
Ah bah voilà, un saint ne sait pas qui il est.
Parce qu'on ne passe pas son temps à se regarder devant un miroir.
Tout à fait, c'est, ah voilà. Merci beaucoup.
C'est fondamental. Non, mais c'est un bon complément. Merci.
Merci. Est-ce que quelqu'un peut nous démarrer sur le chant de bénédiction, s'il vous plaît? Parce que c'est une catastrophe, ma voix. Que la grâce, voilà. C'est le numéro 200.
Je prends toujours le cantique, mais si je connais les paroles. Voilà.
Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Merci pour votre patience et tenons jusqu'au bout. Merci beaucoup.